La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, deuxième partie, notre débat du jour. Bienvenue si vous nous rejoignez, débat ouvert, puisque comme chaque vendredi, c'est la libre antenne, donc c'est vous qui faites le menu. On va revenir sur certaines discussions de la semaine, les prolonger, mais d'abord on va commencer par des réactions à l'un des sujets dont on a parlé dans la première partie, à savoir cette enquête de l'ONG Global Witness contre la famille Sassoon Guesso. L'ONG avait prouvé en avril le détournement de 20 millions de dollars d'argent public congolais par Claudia Sassoon Guesso, la fille du président. Cette fois, c'est le fils, lui aussi député, Denis Christel Sassoon Guesso, dit Kiki le pétrolier, qui est épinglé pour avoir détourné via des sociétés écrans quelques 50 millions de dollars. Et cette affaire, elle fait réagir Alain qui est à Accra. Bonjour Alain.
Bonjour François et bonjour à tous.
Vous ne comprenez pas du tout que ce type de révélation ne suscite pas un tollé au Congo et ailleurs.
Et cela dépasse tout entendement, François. Vous savez, au Congo-Brazzaville, un scandale financier en chasse un autre. Au point que si l'on se met à les énumérer ici, le temps imparti à l'émission est vite épuisé. Mais ce qui est révoltant, c'est, comme je le disais, le silence des Congolais par extension, François, celui de tous les peuples d'Afrique, partout où sévissent encore malheureusement des régimes semblables au régime de Brazzaville. Ces régimes qui font des honneurs à l'intelligence et à la dignité de l'homme noir. Figurez-vous qu'en France, François de Rugy a dû démissionner suite à une affaire de repas fastueux lorsqu'il présidait l'Assemblée nationale. Il y a 24 ans, en Suède, Madame Sarah Mona Sahlin avait dû démissionner elle aussi pour avoir, tenez-vous bien, utilisé la carte de crédit de son ministère pour s'acheter des barres de chocolat. Au Congo-Brazzaville, il y a infiniment bien plus grave que ça. Et personne ne démissionne, ni personne n'est poussé à la démission. 14 000 milliards de francs CFA d'excédents budgétaires dégagés au cours de la décennie faste 2003-2013 se sont simplement volatilisés.
Le mal profond pour vous, c'est la corruption qui assomme les Africains, ça les anesthésie, corruption au quotidien et corruption des dirigeants.
Manque de réaction aux corruptions des dirigeants et le peuple qui s'en accommode. Le peuple qui ne dit rien, qui ne branche pas, c'est incroyable. Les peuples normaux ne fonctionnent pas comme ça. C'est à croire que les Congolais ne se considèrent pas comme citoyens du Congo. Où sont passés les intellectuels du Congo-Brazzaville, François? L'Église, où est-elle? L'Église condamne l'injustice, la corruption. Où va le Congo? C'est incroyable.
Comment vous l'expliquez? C'est la dureté du quotidien qui fait que finalement on n'a pas le temps de se préoccuper de toutes ces choses?
Franchement, la dureté du quotidien, mais cette dureté devrait au contraire pousser les gens à réagir. On l'a vu ailleurs, au Burkina Faso, au Soudan. Là-bas aussi, c'est des Noirs de la même nature que les Noirs du Congo-Brazzaville. Pourquoi on laisse faire? Pourquoi on laisse le pays aller à volo comme ça? Ça ne s'est jamais vu ailleurs. Ce n'est qu'en Afrique qu'on trouve des choses comme ça. Je vous dis, 14 000 milliards de francs CFA, excédents budgétaires, engrangés au cours de la décennie face 2003-2013, se sont volatilisés. Et un directeur de la CREF qui vient à la télévision nationale annonçait au peuple que au cours de entre novembre et décembre 2016, nous avons transféré 9 milliards de francs CFA dans un compte à la LCB, donc la Congolaise des banques, et que ces fonds, là encore, ont disparu. Et les Congolais ne réagissent pas.
Merci Alain d'avoir été avec nous, on a entendu votre mécontentement. On va écouter maintenant un autre auditeur, c'est Brice D, bonjour.
Oui, bonjour François, bonjour à tous les auditeurs.
Vous souhaitiez également réagir à ce sujet, vous êtes Congolais, vous êtes installé à Arras dans le nord de la France. Allez-y, on vous écoute Brice D.
Oui, donc comme disait mon confrère qui vient de passer, ce nouveau scandale d'une grande ampleur éclate à peine quelques semaines après la conclusion, dans des conditions que tout le monde connaît, d'un accord entre le FMI et le Congo. Aujourd'hui, on se rend compte que le FMI signe, des accords remplit les caisses des régimes qui détournent des fonds publics sans être regardant, c'est-à-dire avec beaucoup de légèreté, en ignorant la souffrance des populations qui pâtissent de cette mauvaise gestion. Le fils Sassou dit Kiki le pétrolier. Vous entendez? Kiki le pétrolier. C'est-à-dire que la manne pétrolière du Congo est entre les mains du président Sassou, de sa famille. Et les Congolais souffrent.
Et vous, ce que vous déplorez surtout, c'est la passivité, voire la complicité des partenaires du Congo-Brazzaville?
Ben, notamment, où est la France? La France qui a facilité les accords. La France a facilité l'accord conclu entre le Congo et le FMI. Mais où est la France des droits de l'homme? Où est la France? La France est où? Les partenaires du Congo? La Chine, c'est pas la peine. On sait ce que la Chine a fait avec le Congo. Le FMI a mis son nez dedans. D'où la durée qu'a pris les négociations entre le Congo et le FMI. Mais aujourd'hui, les partenaires, avant les partenaires, ce sont d'abord les Congolais, comme vient de dire mon confrère, les Congolais d'abord eux-mêmes. Le premier responsable de cette situation, c'est le président Sassou. Les mêmes gouvernements, les mêmes ministres qui ont détourné des fonds sont aujourd'hui dans le gouvernement qui va recevoir l'argent du FMI. Alors que le FMI nous avait annoncé que pour conclure un accord avec le Congo, il fallait qu'il y ait une véritable lutte contre la corruption. Ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, les Congolais attendent du président Sassou le limogeage du gouvernement, du Premier ministre, des incompétents qui ont fait du Congo aujourd'hui, excusez-moi du terme, un pays de merde.
Mais
on va dire ça comme ça.
Ouais, vous citez Donald Trump. Le FMI, que souhaitez-vous qu'il fasse? Est-ce qu'il faut qu'il fasse machine arrière?
Ben, exactement. Je demande, comme beaucoup de Congolais, comme beaucoup d'ONG, le retrait, la remise en cause de l'accord qui a été signé entre le Congo et le FMI. On ne peut pas remplir les caisses d'un État qui a eu des milliards pendant des années, dont la dette a été effacée par le FMI au temps de Dominique Strauss-Kahn, remplir les caisses alors que le ménage n'est pas fait sur le plan de la corruption. La mauvaise gestion, elle va continuer parce que les mêmes têtes qui ont détourné sont les mêmes têtes qui sont reconduites à la tête des ministères, à la tête des institutions. Donc rien ne changera.
Merci,
le président doit prendre les responsabilités.
Merci Brisé d'avoir été avec nous. Un autre sujet dans la libre antenne. On traverse le fleuve Congo pour retrouver Théo à Kinshasa. Bonjour, soyez le bienvenu.
Oui, bonjour François, bonjour tous les auditeurs de RFI.
Théo, vous souhaitez revenir sur notre discussion de la semaine sur le futur gouvernement de RDC. On aura peut-être une liste de ministres dans les prochains jours. Mais en attendant, on est toujours dans les conjectures avec cette ossature, 65 ministres répartis deux tiers, un tiers au profit du FCC de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui vous inquiète, Théo? C'est la possibilité que des figures de l'ancien régime soient à nouveau reconduites dans ce gouvernement?
Effectivement, vous savez, le FCC depuis tout ce temps-là a manigancé et a fait en sorte que le pays ne puisse pas marcher. Si aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation, c'est à cause des membres du FCC. Et c'est que nous voulons qu'il y ait de nouvelles figures, et soit s'il y a des anciennes figures, qu'il y ait au moins quelque chose de nouveau, un changement. Nous voulons qu'ils changent leur façon de voir les choses. C'est que...
Alors on vous a perdu, Théo, je crois. Théo, est-ce que vous êtes là? Non, on a perdu Théo, mais sur le même sujet, Isaac voulait réagir. Bonjour Isaac.
Bonjour François Mazé.
Isaac, vous êtes à Lubumbashi et également vous vous inquiétez de ce gouvernement éléphantesque.
Exactement François. Pour ma part, le pessimisme prend le dessus sur tout ce qui est de la formation de ce gouvernement. Et pourquoi? Puisque nous sommes dans un pays où les acteurs politiques font passer la soif des postes et du partage du pouvoir avant l'intérêt du peuple et de l'avancement du pays. Alors, pour des personnes ou des hommes politiques qui se veulent voir, voir ce pays avancer, devraient se concentrer sur l'essentiel. Qui dans ce cas est un ministère important et efficace, mais pas dupliquer certains ministères qui en principe devraient être un, mais se voient scindés par le souci de la satisfaction de partage des uns et des autres.
Oui, Isaac, ce problème également, c'est que qui dit éléphantesque dit aussi budgétivore, et pour un pays comme la RDC qui n'a pas exactement des caisses publiques bien remplies, ça va poser de gros soucis, vous pensez?
Exactement, puisque avec 65 membres dans ce gouvernement, dont 43 pour le FCC et 23 pour le CASH, je vois comment tous ces ministères auront un budget très élevé pour un pays qui se veut être grand, avancé, avoir beaucoup de fonds pour certains secteurs dans ce pays qui ne marchent pas du tout. Je ne vois pas le pourquoi on devait avoir 65 membres dans ce gouvernement, mais la réponse reste simple, c'est la soif du pouvoir. Donc ils ont fait passer les intérêts personnels avant de voir l'intérêt du peuple qui a tant souffert.
Merci Isaac d'avoir été en ligne de Lubumbashi. On retrouve Théo à Kinshasa. Théo, vous nous disiez qu'il faut du renouvellement dans ce gouvernement, mais a-t-il vraiment le choix, Félix Tshisekedi, quand on évolue comme lui dans un cadre constitutionnel restreint, selon le bel euphémisme utilisé hier sur notre antenne par le monsieur Afrique de la diplomatie américaine?
Oui, moi je pense que le président Félix doit prendre ses dispositions ensemble avec le premier ministre, en sorte qu'il puisse bien faire marcher les choses. Même qu'il y ait 42 du côté FCC ou 23 du côté cash, le plus important est que les choses puissent marcher et que le gouvernement puisse travailler durant tout son quinquennat et que nous puissions avoir des résultats probants. Nous ne voulons plus à ce que les choses puissent être comme l'avant. Nous ne voulons plus la corruption. Nous ne voulons plus à ce que nous puissions vivre dans ces conditions. Nous voulons dans des conditions précaires et nous voulons que les choses changent. Si aujourd'hui l'Ebola est en train de perdurer, c'est parce que le Congo est dans une situation assez catastrophique. On ne peut pas y croire, un pays où il y a autant de minerais et nous retrouvons presque dans nulle part. Nous sommes un pays, je ne sais pas, presque dans le chaos.
Merci Théo d'avoir été en ligne de Kinshasa. Ce gouvernement congolais, donc on attend toujours la composition peut-être cette semaine, et bien sûr on aura l'occasion d'y revenir et de voir quels seront ses principaux challenges et ses principales priorités. Direction Cotonou maintenant. Bonjour Albert.
Bonjour François.
Albert, on n'a pas eu le temps de vous écouter hier lors de notre débat sur le défi démographique africain. Vous, contrairement à plusieurs de nos auditeurs très optimistes quant aux retombées de l'explosion démographique du continent, on parle, pour rappel, d'un doublement de population en 30 ans. Eh bien, vous estimez qu'il faut absolument arriver à un contrôle des naissances?
Oui, il faut arriver à un contrôle des naissances. Je pense que l'époque est un peu dépassée où on considérait que le nombre d'enfants était égal à un certain niveau de richesse. Je pense que cette période-là, cette époque-là est passée. Il est très clair aujourd'hui qu'il faudrait allier les politiques publiques sur, disons, sur la démographie. Et quand on nous parle de 30 milliards de doublement de la population en 2030, c'est un problème. C'est un problème parce que moi je ne vois pas comment les ressources vont pouvoir s'ajuster à ce niveau de démographie. Et parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a deux éléments que je voudrais faire avancer. Le premier élément, c'est que les jeunes qui grandissent et vont à l'université et sortent de l'université n'arrivent pas à trouver un emploi. Et quand ils n'arrivent pas à trouver un emploi, ils considèrent que dans leur pays, tout va mal et se retrouvent clandestinité en Europe. La deuxième chose, c'est les changements climatiques. Les changements climatiques qui font aujourd'hui que dans certaines zones du Bénin, précisément aujourd'hui, il y a les réseaux côtiers qui fait, il y a les réseaux, pas les réseaux côtiers, mais il y a les réseaux qui font en sorte que le rendement agricole n'est plus ce qu'il était par rapport aux
années précédentes. Les sols sont dégradés, hein. C'est exactement ce qu'a dit le GIEC, les experts du climat dans le rapport dont on a parlé hier matin. Et du coup, les pays sahéliens et le Bénin dans sa frange nord est aussi un pays sahélien est concerné par cela.
Oui, tout à fait. On est concerné. Si vous arrivez dans le département de l'Atakora aujourd'hui, précisément dans une zone, dans une ville qu'on appelle Natidengou et ses environs, vous allez voir les dégâts de l'érosion qui fait en sorte que les terres ne sont plus fertiles. Et c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et je pense que si vraiment nous attaquons à l'employabilité des jeunes, et que nous insérons un peu quand même dans la dynamique de la lutte contre les changements climatiques, peut-être on pourrait y arriver. Mais le troisième élément, c'est que la démographie galopante ne peut profiter qu'aux pays qui ont une industrie, qui ont beaucoup d'entreprises pour pouvoir employer les jeunes. C'est ça. Quand les trois éléments-là ne sont pas réunis, c'est que vraiment, je ne vois vraiment pas comment nous allons pouvoir évoluer en termes de richesse du pays en 2030 par rapport au doublement de la population.
Merci Albert d'avoir fait valoir votre point de vue. Vous êtes à Cotonou, en ligne maintenant, Yuba à Bamako. Bonjour, soyez le bienvenu.
Bonjour François.
Youba, vous souhaitez partager votre inquiétude pour vos compatriotes de Tombouctou après que le Comité international de la Croix-Rouge a décidé de suspendre ses activités dans la région.
Oui, absolument, François. Et je vous remercie de me donner l'occasion d'exprimer cette inquiétude-là. Parce que ces populations de Tombouctou donc, sont censées être sécurisées parce que Tombouctou, justement, est une zone qui est dirigée aujourd'hui par l'État malien et les parties signataires de l'accord. Donc je ne comprends pas qu'un organisme international comme le CICR puisse prendre l'argument de l'insécurité pour fermer ses services. Ça veut dire les deux choses l'une. Soit la communauté internationale joue à la comédie avec nous en faisant confiance à ces gens-là qui ont signé ces accords de paix, notre gouvernement nous prend pour... vraiment, je ne sais pas.
La Croix-Rouge qui s'est plaint de tentatives de vol dans la région de Tombouctou, des vols de véhicules notamment, qui sont ensuite revendus, parfois en pièces détachées. C'est du banditisme, de la criminalité, mais selon vous, c'est aussi de la faute des groupes armés qui n'assurent pas leur mission et qui parfois peuvent être complices de ce genre de choses ?
Absolument, parce que quand j'ai bien écouté l'interview du responsable de la Croix-Rouge qui a dit que certains de ces véhicules ont été retrouvés par le trichement des élus locaux ou des signataires des accords, ou en tout cas des gens en situation qui sont bien connus. Ça veut dire donc que les rapports sont établis entre ces gens-là et les bandits.
Mmh. Donc maintenant, l'État doit faire quelque chose, selon vous ?
Mais absolument. Parce que quand le CICR n'est pas là, ça veut dire un peu moins de sécurité encore pour les habitants de Tombouctou, un peu plus de besoins, un peu plus de misère alors. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que notre État fait dans ces conditions-là. Je ne comprends pas.
Merci.
Pourquoi ils ne dénoncent pas tout simplement cet accord qui n'en est pas un ? Parce que ces gens-là, auxquels on donne des milliards et qui continuent à bafouiller la simple sécurité de l'État, mais c'est pas possible.
Merci Youba d'avoir été avec nous à Bamako. Bonne journée à vous. Libreville maintenant, le Gabon. Bonjour Joseph Aimé.
Oui, bonjour François Mazet et bonjour à toute la communauté de RFI.
Vous voulez faire part de l'exaspération des habitants hein, de Libreville suite à la crise des éboueurs dont on a parlé hier matin sur l'antenne.
Oui, effectivement, c'est une exaspération terrible, même si c'est vrai que l'État gabonais a toujours tendance à faire preuve d'étonnement, je ne sais pas comment le qualifier. Il s'étonne de voir Averda repartir en grève après avoir leur donné 6 milliards de francs CFA. Mais le problème qui se pose, c'est que entre 6 milliards et peut-être 24 milliards, je pense que c'est les 6 milliards ne représentent pas grand-chose.
Alors pour rappel, le concessionnaire hein, se plaint de 24 mois d'arriérés de paiement pour 21 milliards de francs CFA, soit une trentaine de millions d'euros. Et donc du coup, les éboueurs sont en grève. Donc ça a des conséquences très importantes hein, au quotidien. Les odeurs, la saleté, les embouteillages.
Non, effectivement, François, c'est qu'il ne se passe pas un moment depuis pratiquement deux, trois jours à Libreville, sans pour autant que vous ne soyez soumis à des embouteillages, parce que les rues sont bondées de détruments, de détritus, des ordures ménagères. Et ça, en fait, nous sommes, en tant que population, exaspérés de voir malheureusement l'incapacité du gouvernement à pouvoir mettre les Gabonais dans une situation de sanitaire efficient.
Donc vous, la grève, vous la mettez sur le dos du gouvernement plutôt que sur le dos de l'entreprise ?
Mais non, mais écoutez, personne n'accepterait de rester 24 mois sans être rémunéré. Et entre-temps, ils ont quand même continué à faire des...